les jardinières.
Le soleil n'en peut plus de nous inonder de ses rayons et de sa chaleur. Heureusement, on profite de la fraîcheur du matin pour parler jardin. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Vous êtes frais ?
Je suis frais et vous êtes ensoleillé ?
Oui. Et lui, il est les deux, frais et ensoleillé. Il s'est levé à l'aube pour répondre à vos questions jardinage et nous parler de graines. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. Merci d'être avec nous ce matin.
Soyez les bienvenus chez les jardinières. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Jean-Pierre, après un mois de mai très très humide, voilà que le mois de juin est très très sec. Du coup, on fait quoi ? On bine le jardin ce week-end ?
Alors, il y a plusieurs interventions qu'on peut faire dans nos espaces verts, bien sûr. Biner, c'est une solution qui est intéressante pour épargner le manque d'eau, parce qu'on sait très bien que casser cette capillarité, cette croûte terrestre, eh bien, l'humidité reste au sol. Et puis, on peut faire un peu d'arrosage quand même sur les dernières plantations ou le dernier semis qui aurait été réalisé. Après, il reste quand même les tontes, mais je rappelle effectivement que les tontes, il faut rehausser vraiment les plateaux de coupe, parce qu'effectivement, la bise de ce dernier mois nous a vraiment asséché des sols qui sont en souffrance et puis qui mettent en péril passablement de culture.
Merci beaucoup Jean-Pierre, vous êtes notre invité ce matin et vous allez prendre le temps de répondre aux questions jardinage de nos auditeurs, des questions qu'on attend d'ailleurs par téléphone au 0901 70 20 20, mais aussi par formulaire, il est disponible sur notre site internet sous l'onglet émissions questions aux jardinières avec la possibilité de joindre une photo, ou alors vous avez même une troisième possibilité, les SMS, vous tapez jardin, un espace et votre question et vous nous envoyez ce message au 939.
Dans la suite des jardinières, Jean-Pierre nous expliquera comment récolter des petites graines dans la nature pour, par exemple, embellir sa prairie fleurie.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves, nous allons apprendre à récolter des graines de plantes sauvages pour ensuite les semer chez soi. Alors Jean-Pierre, quels sont les avantages de faire sa propre récolte de graines de fleurs, par exemple ?
Alors, il y a quelques avantages, bien sûr. Il y a déjà, évidemment, l'aspect économique qui n'est quand même pas très conséquent parce qu'en général, quand on fait des semis, les sachets de semences coûtent pas très très cher. Donc, ça fait partie du site. Mais après, l'idée, c'est de pouvoir conserver des semences d'écotype régional. Là, c'est plus intéressant parce que quand on a une jolie prairie ou un joli légume ou une jolie plante dans un coin de son espace et puis de se dire qu'on aimerait la sauvegarder puis la propager ailleurs sur un autre site, et bien de pouvoir prélever ces semences et puis les entretenir pour les réimplanter ailleurs, et bien vous avez cet aspect justement de sauvegarde du patrimoine de chez nous, de ce qui est écotype régionaux, et puis c'est peut-être de sauver aussi l'écotype de la grand-maman qui avait une plante intéressante dans un coin et puis se dire de la propager ailleurs.
Et Jean-Pierre, quel est le moment idéal pour récolter les graines ? Comment on sait si cette graine elle est prête à être récoltée ?
Alors ça dépend de la plante sur laquelle vous voudrez prélever les semences. Si c'est une prairie fleurie par exemple, et puis que vous aimeriez avoir une partie des fleurs ou l'ensemble de la panoplie de la floraison qui se trouve sur cette prairie, il y a beaucoup d'observations à faire pour conserver, pour voir, pour analyser si la semence est à maturité ou pas. Évidemment la fleur, il faudra qu'elle soit passée et puis que les pétales tombent et puis vous aurez ce pistil qui sera gorgé de semences. Au toucher, vous arrivez à voir si c'est mature ou pas. Ouvrir une ou deux cosses pour voir comment se trouve cette semence à l'intérieur. Ça, c'est des éléments qu'il faut absolument faire, sinon vous ne pourrez pas le savoir sur la prairie fleurie. Après, pour ce qui est de légumes ou autres, c'est plus facile, évidemment, quand on parle de petits pois, d'haricots. Eh bien sûr, il faut que le fruit soit presque sec sur plante pour arriver à récolter cette semence. Pour ce qui est de la tomate, eh bien sûr, il faut que le fruit soit aussi à pleine maturité pour arriver à prélever cette semence dedans. C'est un peu toutes ces choses-là qu'il faut, surtout beaucoup d'observation et puis de tact pour observer et s'imaginer comment récolter pour la conserver après cette semence.
Donc ça peut débuter maintenant cette récolte et ça va durer jusqu'à la fin, jusqu'à l'automne.
Alors oui, évidemment, il faut que la plante se soit mise à fleur et puis que cette floraison soit épanouie un temps pour passer et puis à partir de là jusqu'à l'automne vous aurez de la récolte possible, oui.
Et puis on va passer à cette fameuse récolte. On a choisi les fleurs ou une fleur qui nous plaît. Elle est à point, si je puis dire. Comment est-ce qu'on procède ? On fait ça avec les mains ? On préserve quand même le reste de la plante ? On fait attention ?
Alors ça dépend un peu du volume de semences que vous voudrez et puis ça dépend de l'utilisation future. Si c'est quelques plantes que vous aimeriez obtenir, effectivement c'est à la main que ça se passe. Même les grands producteurs de semences en Suisse ont des batteries de récolteurs qui travaillent à la main parce que tout ne se récolte pas à la moissonneuse batteuse, bien sûr. Il y a un choix de la plante, on prélève des semences sur des plantes de qualité, des plantes robustes, quelque chose qui a déjà été épanoui. Et puis, après, je perds le fil, pardon.
On parlait de ces récoltes, s'il y avait comment s'y prendre avec les mains ou autre, et puis pas entre guillemets, tout bousiller.
Non, mais oui, alors, oui, bien sûr. Non, alors, quand c'est du prélèvement à la main, bien sûr que vous n'avez pas ce problème de détruire toute la récolte, c'est vraiment du ponctuel. Par contre, si vous avez envie de faire une grande récolte et puis de couvrir une surface avec une prairie fleurie pour revenir sur cela, eh bien, évidemment, là, on peut faire carrément une fauche de cette prairie fleurie. On prélève le matériel de fauche qu'on va répandre sur la nouvelle surface à ensemencer. Et puis là, justement, l'assèchement du matériel, comme une surface de foin, va laisser tomber ses semences au sol, ce qui va justement permettre de réensemencer des surfaces naturellement avec des écotypes régionaux.
Et Jean-Pierre, est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour la récolte ?
Alors, il y a des précautions à prendre, surtout au niveau des plantes invasives que l'on peut trouver dans ces surfaces. Les plantes invasives comme la bergerette ou la renouée ou la berce du coca, c'est évidemment des plantes qu'il faut absolument éradiquer. Ce qu'on peut aussi faire, des fois, avant le prélèvement des surfaces, on fait une fauche, des fois en altitude, pour enlever un maximum de graminées, pour conserver un maximum de fleurs au sol. La graminée étant plus précoce et puis venant à maturité plus vite, le fait de la faucher en hauteur, alors bien sûr vous allez éliminer quelques fleurs au passage, mais les fleurs auront une capacité de repartir nettement plus conséquente, et puis 3 semaines après, eh bien vous pourrez récolter ces fleurs en abondance avec un minimum de graminées. Et puis pour tout ce qui est des plantes invasives, eh bien évidemment c'est souvent une lutte au préalable, comme le chardon, le rumex, la bergerette, eh bien c'est de l'arrachage évidemment.
Et ça, on ne les replante pas ensuite dans sa propre prairie fleurie, ça
serait dommage. À l'évidence, bien sûr.
Merci beaucoup Jean-Pierre, on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette discussion sur la récolte de graines de plantes sauvages ou du jardin.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve, nous parle de récolte de graines de fleurs sauvages ou de plantes sauvages. Alors Jean-Pierre, vous nous avez expliqué comment procéder pour faire une récolte. Et puis maintenant, on aimerait savoir, quand on a ces petites graines dans la main, qu'est-ce qu'on en fait ? On les garde jusqu'au printemps suivant ou on va les ressemer de suite chez soi dans sa propre prairie fleurie ?
Non, alors une fois qu'on a prélevé ces semences, qu'on a mis ça dans un panier ou dans un sac ou quelque chose comme ça, eh bien, arrivé à la maison, il faudra passer au nettoyage de ces semences. On défait la cosse selon la fleur, on enlève les parties végétatives qui sont encore trop grandes selon la casse qu'on aura prélevée quand on enlève cette ombelle. On va prendre soin vraiment d'enlever un maximum de ces déchets qui n'ont pas besoin d'être dans la semence. Et puis après, cette semence, eh bien, on va la faire sécher, on va la mettre soit sur des linges, soit sur des grilles métalliques. On va la ventiler, ça veut dire trouver un espace où il y a de l'air, pas trop au soleil parce qu'on n'a pas envie de la laisser trop se dessécher. Il faut savoir qu'une semence est un élément très vivant, donc on ne peut pas la tirer à 0,0 au niveau humidité parce que dans ce sens-là, elle ne redémarrerait jamais. Mais si on la sèche à l'air naturel sans un coup de soleil trop dense, eh bien, aucun souci, la semence, elle va conserver tout ce pouvoir germinatif. Et puis après, quand on aura ces semences qui seront sèches, eh bien, on va les en s'acheter avec des sacs de toile ou de papier, mais en tout cas pas de plastique, parce que le plastique est un élément hermétique qui pourrait causer des dégâts sur cette semence. Pas oublier d'étiqueter le sachet avec la semence que vous aurez ou les fleurs que vous aurez présélectionnées. Datez peut-être ce sachet également, comme ça on saura dans une année ou deux ans le temps que cette semence aura été récoltée. On sait que de la semence peut se conserver entre 2 et 5 ans en tout cas. Donc si vous en avez trop en une année, vous pouvez en conserver pour redensifier ces plantations, ces semis les années qui vont suivre. Et puis, une fois toutes ces petites tâches réalisées, eh bien, on va conserver ces semences dans un endroit de son chez-soi pour la réutiliser au printemps. Alors, à l'évidence, au printemps, on va faire une préparation du sol pour arriver à remettre en place ces semences. On pourra densifier peut-être des espaces avec certaines ou faire un mélange total de ces semences. C'est selon la récolte comme vous l'aurez pratiqué au préalable. Si c'est un mélange total de semences, c'est bien, on va faire un semis uniforme. Et puis, si vous avez fait des prélèvements très précis sur certaines fleurs que vous aurez présélectionnées, eh bien, à l'évidence, vous pourrez densifier ou faire comme vous le souhaiteriez. Ce qu'il faut aussi relever, c'est que selon les récoltes des surfaces sur lesquelles vous êtes, on a par chez nous des plantes qui sont protégées par la loi. Et puis, il est très important de les sauvegarder, surtout dans l'espace où elles se trouvent. Il est stupide de se dire, ben voilà, une jolie orchidée ou une jolie fritillaine, je vais prélever cette semence-là pour essayer de l'implanter chez moi. Parce que de un, elle est protégée. De deux, elle est très rare. Et puis, troisièmement, c'est garanti que chez vous, il y a peu d'espoir qu'elle puisse s'épanouir, parce que il faut une quantité de mesures qui soient rassemblées pour que naturellement elles s'épanouissent. Et puis le mieux est de les laisser dans leur milieu nature où elles se trouvent pour densifier ces populations-là. Il est difficile d'aller les placer. Si c'était faisable, il y a longtemps des semenciers qui nous mettraient à disposition des quantités de semences de ces plantes rares, et puis elles ne seraient plus rares. Donc une attention particulière à porter sur toutes ces plantes protégées qui sont dans des espaces types et puis qui il ne faut pas déplacer.
On en parlera juste après un peu de musique, la météo et l'inforoute justement de cette récolte en vacances. Est-ce qu'elle est à faire ou pas? Vous avez déjà la moitié de la réponse.
7h, 8h, les jardinières.
Quoi de mieux que de commencer son week-end en compagnie des jardinières et de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. En plus de bons conseils, il est prêt à répondre à vos questions.
Et pour les poser, ces questions, vous avez trois possibilités, soit par téléphone au 0901 70 20 20. Vous aurez la chance de parler en direct avec Jean-Pierre. Vous pouvez aussi choisir le formulaire disponible sur notre site internet et y joindre une photo. Ou alors, vous nous envoyez un simple SMS, vous tapez « jardin », un espace et votre question. Vous terminez par votre nom et vous nous envoyez ce message au 939.
Jean-Pierre, il y a quelques minutes, on parlait de récolte de graines. Alors, si c'est une bonne idée de faire, de récolter des graines près de chez soi, tout en prenant garde à ne pas récolter les plantes protégées, c'est une moins bonne idée si on décide de le faire quand on est en vacances, assez loin de sa maison. Vous nous expliquez pourquoi ?
Oui, bien sûr, parce que en général, déjà la loi l'interdit, bien sûr. Et puis, ce qu'il faut éviter, c'est d'amener des nouveaux écotypes, des plantes invasives, des plantes qui pourraient coloniser le trop chez nous. On a par exemple l'exemple de la berce du coquin, ce qui à l'époque était une plante qui était vendue dans les grandes surfaces, en petits pots. Et puis en fait, la berce du coquin, c'est une grande légumineuse qui fait des grandes ombelles blanches. Ce sont des avantages en plus, c'est que si vous la touchez, eh bien, elle peut vous brûler la peau, parce que la sève et le soleil ont une réaction très méchante, et puis elle est difficilement éradicable. Donc ça, c'était quelque chose qui avait été importé par le passé en pensant que c'était une bonne idée. Donc le problème à tout cela, c'est qu'en plus les plantes que l'on pourrait importer d'ailleurs pourraient coloniser donc nos espaces, mais surpasser sur ce qu'on a déjà chez nous, parce qu'une autre capacité de colonisation, et puis c'est pas du tout le but. L'idée, c'est vraiment de sauvegarder nos espaces avec les plantes qui se sont adaptées à chez nous. Faut comprendre que sur un talus, par exemple, qui, avec les canicules que l'on vit, reste vert, eh bien, il y a eu une forte sélection par le temps des écotypes qui s'y trouvent. Et puis, d'importer d'autres choses là-dessus, ce serait dommage parce qu'on perdrait cet écotype qui s'est déjà répandu par le passé, qui a pu survivre à cela. Et puis, au niveau nature, eh bien, faut travailler tous dans ce sens-là, quoi, sauvegarder un max.
Et Jean-Pierre, est-ce qu'il vous arrive, vous, personnellement, d'aller récolter des graines de fleurs sauvages pour les utiliser dans vos projets de paysagiste ?
Alors, ce qui nous arrive, c'est de devoir faire des prélèvements de grandes surfaces de prairies fleuries pour réensemencer d'autres surfaces. Et puis, cela, bien sûr, c'est de nouveau pour sauvegarder ces capacités régionales que l'on a. Certaines fois, ce qui peut aussi se produire, c'est que des architectes nous demandent de prélever les 20-30 premiers centimètres de terre en plaques d'un mètre sur un mètre pour garder ce potentiel grainier qui se trouve dans cette terre. On va utiliser cela pour remettre en place une fois que les constructions auront été refaites. Par contre, si on doit faire des fauches, alors bien sûr, on va pratiquer la fauche le matin à l'humidité sur les surfaces prairies fleuries que l'on a, parce que le matin, bien sûr, la semence ne se défait pas facilement de la tige. Et puis on va ramasser ça relativement très vite à la fourche ou à l'autochargeuse, c'est égal, mais à la fourche ça va très bien. Charger cela et puis mettre cela rapidement en place sur la nouvelle surface. À l'humidité, la semence ne se défait pas facilement de la cosse. Par contre, si vous faites une fourche dans l'après-midi et puis que la semence a séché sur son élément, et bien là vous allez perdre une quantité de semence qui est dommageable.
Merci Jean-Pierre. Encore une dernière question sur cette récolte de graines. Peut-être des gens sont intéressés à le faire, des gens qui nous écoutent, qui sont débutants. Qu'est-ce que vous leur conseillez comme première fleur ou première plante à récolter, à part le pissenlit parce que c'est trop tard
Mais c'est trop facile. Oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup de sortes de plantes qu'on peut sauvegarder facilement et réimplanter. La tagette, pour ce que tout le monde connaît. Après, les légumes, bien sûr, tomates, haricots, petits pois, ça, c'est très facile. Il y a des plantes qui est plus difficile à observer de la semence parce que c'est des bisannuelles. Et puis, en général, sur la bisannuelle, il faut laisser passer la plante à l'hiver pour récolter la graine au printemps. Et puis là, c'est beaucoup plus délicat. Mais celui qui veut commencer, ou comme les dianthus ou les encolis, ça, c'est des plantes qui sont très très faciles. Simplement prendre les semences sur les végétaux qui sont robustes, qui présentent déjà une certaine capacité pour avoir des qualités de semences acceptables pour les réintroduire après dans les semis.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Dans la suite des jardinières, on répondra aux questions de nos auditeurs, des questions qu'on attend notamment par téléphone au 0901 70 20 20.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud aujourd'hui, paysagiste à Queuve. Et il est prêt à répondre à vos questions. D'ailleurs, Brian, je crois que vous avez une personne par téléphone.
Et oui, c'est Anton de Bévillard qui nous appelle. Il a une question avec son laurier.
Bonjour Anton.
Bonjour Anton.
Oui, bonjour. L'équipe des jardinières. J'aime bien votre émission.
Merci.
J'ai pas besoin de vos services. Et j'ai un laurier tricolore à Hollandais, et puis ça arrive d'une année à l'autre, tout d'un coup, quand il commence à faire les boutons, les grappes de fleurs, il chope une raie noire sur le bout et il se replie. Et souvent la fleur est fichue, je ne sais pas.
Oui.
Ce que ça peut.
Oui, bonjour. C'est seulement sur l'ample floral, sur la partie supérieure de la pousse, que vous avez ce phénomène?
Oui, effectivement. Donc, sitôt que ça bourgeonne, donc, ça donne un petit trait noir et le bouton se plie, si vous voulez, la grappe de fleurs.
Et puis, elle ne vient pas à maturité.
Oui, la fleur. Du mal, en tout cas. Comme la main, elle sort au début, elles vont bientôt fleurir, je pense.
Oui. Bon, évidemment, le Nerium hollandais, c'est une plante du Portugal que l'on connaît un peu, mais pas à 100% dans les problèmes phytosanitaires que l'on peut rencontrer. Mais comme vous l'expliquez, alors évidemment, je n'ai de nouveau pas la plante devant moi et puis de photos, mais certainement que c'est une piqûre d'insectes qui propage ce dégât sur le sarment. Cette piqûre occasionne ce dégât. Et puis, du moment que le dégât s'étend sur la longueur de la pousse. J'imagine que c'est lors du développement de la pousse. Donc, vous avez l'insecte qui a piqué. Ensuite, la pousse va s'allonger pour s'épanouir au niveau de la fleur. Ce dégât va s'allonger sur cette pousse et puis va bloquer une partie de la sève qui ne va pas alimenter la lampe florale. Et puis, certainement que ce dégât, il est causé par un insecte piqueur. Alors, après lequel, je ne sais pas. Peut-être un peu d'observation chez vous pour voir quel pourrait être le problème. C'est en tout cas pas une maladie, c'est l'évidence. Donc, ou quand vous voyez que l'ampe florale se met à gentiment se développer, eh bien, éventuellement un insecticide en prévention pour éradiquer le phénomène, c'est peut-être le test qu'il faudrait faire. Je peux pas vous dire beaucoup mieux sur la question parce qu'effectivement, c'est pas une plante qui est. Alors, elle est courante chez nous. Le problème n'est pas vraiment relevé. Et puis, moi, je l'ai jamais vécu. Voilà.
Ouais. Donc justement, je suis étonné parce que c'est vraiment le dernier bout de la plante. Donc, je pense qu'elle a déjà une quinzaine d'années. Je l'hiberne toujours.
Oui.
Elle refait des pousses. Je l'ai fait tailler aussi. L'année passée, il fleurit. C'est magnifique. C'est toujours le bout, quand il fait les nouvelles pousses, avant que le bouton se forme.
Oui, c'est certainement lié
aussi. J'ai remarqué aussi que j'ai coupé une. Et puis, il me semble que ça descend dans la tige. Ça fait comme un trou.
Oui, alors... Je vois pas le problème sous les yeux, c'est pour ça. Est-ce que c'est une mineuse du tronc que vous avez? Ça, je ne sais pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est certainement le cycle du parasite qui arrive à cette période où, au moment où vous avez le nérium qui se met en fleur. Et puis, ben, ce parasite, il est là pour attaquer à ce moment-là, pour se reproduire après. Donc, c'est certainement lié à ce cycle.
Et Anton, ouais. N'hésitez pas à nous envoyer une photo la prochaine fois de votre plante. Vous pouvez le faire via le formulaire sur notre site. Est-ce que ça va comme ça pour vous?
Ben, on va essayer comme ça, oui, je vous remercie.
Merci à
vous.
Merci.
Avec du savon noir, mais je pense que ça progresse quand même.
On espère alors... que ça va mieux. Merci beaucoup, Anton, pour votre appel.
Merci
on va continuer direct. Merci et bel été. Merci. Jean-Pierre, on va parler d'une plante d'appartement, cette fois-ci une calathea que Maddy de Fribourg a depuis un an. Elle a fleuri plusieurs fois et depuis ce printemps, les feuilles se retournent et elle a mauvaise mine. Malgré un arrosage modéré, elle n'est pas au courant d'air, cette plante. Elle n'a pas de chaleur ni de froid. Elle aimerait savoir qu'est-ce qu'elle peut faire et puis Maddy nous a envoyé une photo avec sa question.
Oui, merci Amadi pour la question. Effectivement, on voit que cette plante, elle est en souffrance. Le bord des feuilles se recouvre, se replie, se frise comme cela. Et puis, on voit que le développement n'est pas au top. Évidemment, si c'est une plante en souffrance, elle ne va en tout cas pas pouvoir se mettre à fleurir. Là, moi, je détecte plutôt un problème au niveau du volume du pot. Je pense qu'il faudrait rempoter cette plante dans un pot plus grand, plus conséquent, avec un terreau de bac et terrasse, un engrais de longue durée. Et puis, je pense qu'on va parer au problème parce qu'elle ne montre pas de signes de maladie ou de parasite. Et puis, ce n'est pas un problème d'arrosage non plus parce que la couleur est jolie. C'est juste une souffrance de bord de feuille. Donc, transplanter la plante dans un pot plus conséquent avec un bon arrosage de l'engrais de longue durée. Et puis, je pense qu'on va arriver à épanouir cette plante.
Merci beaucoup Jean-Pierre, on va se retrouver dans un instant pour la suite de ces questions. On en a encore 2-3 à vous poser.
7h, 8h, les jardinières.
7h presque 51 chez les jardinières et Brian, vous avez une personne au bout du fil.
Et oui, c'est André qui nous a appelé au 0901 70 20 20 pour nous poser une question. Bonjour André. André, vous êtes là?
Oui, oui.
On vous écoute.
On vous écoute.
Posez votre question à Jean-Pierre.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'ai récolté des oignons de grenade. Et maintenant, j'aimerais savoir si je peux les mettre en pleine terre maintenant.
Oui, bien sûr que vous pouvez les mettre en pleine terre. Ils vont s'épanouir au printemps prochain. C'est presque le moyen de conservation le plus simple. Si vous les mettez en pleine terre, ils vont se mettre en situation latente jusqu'à l'automne. Durant l'hiver, eh bien, ils vont commencer de raciner pour s'épanouir dans le printemps. Donc, bien sûr que vous pouvez les remettre en pleine terre déjà maintenant. Arrosez-les quand même un petit coup une fois mis en terre. Une profondeur quand même acceptable pour épanouir la plante. Donc, on dit entre 3 et 4 fois la hauteur hauteur de l'oignon au niveau du sol. Et puis, vous voulez arriver à repartir avec ces bulbes pour le printemps prochain, voilà.
Et comment est-ce que je peux les apprêter après, ces oignons grenades ?
De les traiter, j'ai pas compris.
Non, les apprêter,
les manger. Est-ce que vous avez une petite recette sous le coude, Jean-Pierre ?
Oui, alors non, je ne suis pas très culinaire au niveau des oignons. Je ne saurais vous répondre par rapport à cet oignon-là. Je ne le connais pas autrement, je dois dire.
Ok.
Merci beaucoup, André. Bah, merci, vous nous redonnerez bien des nouvelles sur ce goût d'oignon de grenade. Merci pour votre appel. On vous souhaite un bon dimanche. Merci.
Au revoir.
Merci à vous.
Au revoir. Jean-Pierre, nous avons reçu une question de Angèle qui vit à La Chaux-de-Fonds et elle nous dit qu'elle a planté un pied de framboisier avec son fils qui est sur son balcon. Le framboisier, pas son fils. Une espèce d'insecte a bouffé les feuilles, elles ont pourri, mais le haut de son pied se porte bien et commence même à faire quelques petits fruits. Et elle se demande qu'est-ce qu'elle peut faire, Angèle ?
Oui, alors bonjour Angèle. En fait, la framboise n'est pas forcément une plante idéale pour l'implanter dans un bac sur une terrasse. Parce que la framboise, de nature, eh bien, elle adore les sols profonds et frais. Les endroits ombragés passent relativement bien pour son épanouissement. Donc sur une terrasse à 40 degrés, c'est évident que votre plant de framboisier va souffrir. Et puis il y a de fortes chances que, alors si vous l'avez planté ce printemps dans votre bac, que ce framboisier souffre énormément, a perdu une bonne partie des feuilles, mais naturellement. Donc il se défend par rapport au sec, par rapport à la température. Et puis pour cette défense, eh bien, le mieux pour lui, c'est de perdre ses feuilles pour éviter cette évaporation par ce lin, par la feuille, bien sûr. Et puis il arrive quand même à produire quelques fruits en sommet de pousse. Mais pour sauvegarder ce plant, il faudra à l'évidence ne pas le laisser dans le pot et puis trouver un espace dans un jardin en pleine terre pour sa survie. Parce que sinon, je ne pense pas que vous allez pouvoir repartir en culture l'année prochaine avec ce plant de framboise. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On a reçu encore une dernière question de Rose de Tramelan qui nous demande comment traiter ces arbres fruitiers.
Oui, bonjour Rose. En fait, j'ai vu la photo que vous avez transmise. À l'évidence, votre pommier, en tout cas c'est un pommier sur photo, est colonisé par le puceron vert. On le voit parce que la hampe de la pousse annuelle se recroupe vraiment, se tord. Vous avez les feuilles qui se recroquevillent sur elles-mêmes. Et puis, c'est l'abondance de pucerons verts qui vous pique ces pousses et puis qui mettent en souffrance ce pommier. Des suites de quoi vous avez après une coloration de feuilles qui vient jaunâtre, vous avez ces chutes de feuilles prématurées et puis ce pommier ne peut pas se développer, ne peut pas s'épanouir, ne peut pas s'agrandir parce que l'attaque est trop conséquente. Donc là, il faut absolument intervenir soit avec un savon noir en pulvérisation ou alors un insecticide, mais en tous les cas, faut combattre une partie de ce puceron. De temps en temps, on pourrait dire il y a 3-4 pucerons sur une pousse, on les laisse parce que ça ne pose pas trop de problème. Sur votre pommier, là, en question, à l'évidence, si vous ne faites rien, vous n'aurez pas de pousse cette année, puis il y aura un passage à l'hiver conséquent de ces œufs de pucerons qui vont repartir en dégâts pour l'année prochaine. Donc une lutte s'impose, la bonne période c'est maintenant, le mieux c'est en fin de soirée, plutôt sur le coup des 9-10 heures si vous pouvez, parce qu'à ce moment-là on n'a plus d'abeilles, on n'a plus d'insectes piquants, pollinisateurs qui volent, et puis vous aurez une efficacité nettement meilleure de l'insecticide sur le parasite, parce que bien sûr toute la nuit et la fraîcheur sera pour que l'insecticide fasse effet.
Merci beaucoup Jean-Pierre, on rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribou Paysage à Queuves. On peut déjà vous souhaiter un bel été et on se revoit à la rentrée chez les jardinières.
Merci tout le monde.
Merci beaucoup Jean-Pierre d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Et puis la semaine prochaine, les jardinières, grande première, vont sortir du studio. Nous serons en direct de Charmoille, dans la micro-ferme biologique de Claudine Miseret et Stéphane Caravellas. Brian, vous préparez vos bottes et votre seau,
vous inquiétez
parce qu'il y aura
pas,
du
avec
boulot pour vous. Moi, je mangerai des fraises pendant ce temps. Et nous y serons entre 7h et 8h, parce qu'il n'y a pas d'heure pour jardiner. Bon week-end. Merci.
7h, 8h, les jardinières.